Allez, je vais vous inviter à prendre un passage dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Mais souvent, le découpage n'est pas très bien fait, je trouve. J'ai jamais trop compris pourquoi. Normalement, ça devrait commencer. Le chapitre 53 devrait commencer au chapitre 52, en fin de compte, au verset 13. Donc je vous invite à prendre le chapitre 52, verset 13, mais bien sûr nous allons lire tout le chapitre 53 aussi. Je commencerai la lecture, chapitre 52 de Ésaïe, au verset 13, et nous lirons tout le chapitre 53 jusqu'au verset 12. Il risque d'avoir des nuances en fonction de certaines traductions. Sur certains versets, il y aura peut-être quelques nuances qu'on expliquera au fur et à mesure du message. On regardera verset après verset ensuite. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il était pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, ou qui connaît un peu la notion de l'Ancien ou Nouveau Testament simplement, aurait du mal à croire que ce passage se trouve dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas ? C'est un passage pour nous, en tout cas aujourd'hui, même en tant que chrétien, on se dit « Waouh !» Un passage comme cela dans l'Ancien Testament. Comment se fait-il que les Juifs ne croient pas à ça? Comment se fait-il que les Juifs soient encore dans le judaïsme aujourd'hui avec un tel passage? Ça ne va pas être l'explication de ce matin, mais il y a une des raisons que j'ai lues dernièrement, c'est que c'est un des seuls passages aujourd'hui qui n'est jamais lu dans les synagogues. J'ai appris ça dernièrement. C'est un des seuls passages que vous ne retrouverez quasiment jamais en lecture le jour du sabbat en Israël et dans les synagogues dans le monde. Ça ne me surprend pas. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire, nous dit Luc. Le passage que nous venons de lire ce matin est, je pense, un des passages les plus évangéliques de l'Ancien Testament, voire le passage le plus évangélique de l'Ancien Testament. Souvent appelé l'évangile de l'Ancien Testament par beaucoup de théologiens. Son auteur s'appelle Ésaïe, et c'est le prophète le plus cité aussi dans le Nouveau Testament. Ces versets font partie d'un recueil, c'est de quatre chants, Et là, ce matin, nous venons de lire le quatrième chant. Donc, si vous avez à cœur de lire les quatre premiers chants de ce recueil, il faudra lire les chapitres qui précèdent. C'est pour ça que je vous disais que le découpage était un peu spécial. Moi, j'aurais mis, bon, moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais j'aurais mis le verset 13 tout dans le chapitre 53, qui aurait fait un cantique. Et ce matin, nous allons voir la première partie de ce cantique. Si vous voulez voir la deuxième partie de ce cantique, il faudra revenir le 4 juillet. Je serai parmi vous le 4 juillet, je ferai la suite. Hein? Vous savez, aujourd'hui, ça marche bien, les séries. Netflix, tout ça, les gens, ils commencent, puis ils sont accro, il faut revenir. Donc, j'espère que vous serez accro à l'épisode 1, et que vous reviendrez pour l'épisode 2, le 4 juillet. Et le 4 juillet, en plus, c'est la fête nationale des États-Unis, et c'est la Saint-Florent. Donc, ça tombe bien. Voilà, je blague avec ça. Ce chant que nous venons de lire a été écrit 700 ans avant que Jésus-Christ vienne. 700 ans avant que le Seigneur vienne dans le monde. Et à travers ce chant, Dieu révèle son plan et son histoire, une histoire qui est déjà réalisée et que nous connaissons. Mais il est bon pour l'être humain de relire l'histoire de Dieu. Redites-moi l'histoire. Vous savez, une des plus grandes pédagogies de Dieu, et je pense de tout parent, c'est la répétition. Combien de fois je dis à mon enfant, ne touche pas ça, ne fais pas comme ça, fais comme si, et on répète, et on répète. Mais Dieu fonctionne de la même manière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il répète les mêmes choses. Souvent, on veut beaucoup de nouveautés, mais Dieu répète les mêmes choses. Et là, je vais répéter des choses que vous avez déjà entendues. Je ne suis pas le pasteur intervenant extraordinaire en me disant, waouh, merci, on n'a jamais entendu ça dans l'Église. Non, je ne crois pas à cela. Tout ce que je vais dire ce matin, vos enseignants, vos pasteurs vous l'ont déjà enseigné, vous l'avez déjà entendu. Rien de nouveau de ce que je vais annoncer. Si je dis ça, c'est parce que quand j'ai un intervenant extérieur dans l'église à Florac, les gens viennent me voir, waouh, on n'a jamais entendu ça. Oh là là, mais soit ils sont sourds, soit j'ai pas bien, je sais pas. En tout cas, voilà, rien de nouveau, hein, de ce que vous allez entendre. Juste, mon objectif ce matin dans la prédication de la parole, c'est de vous encourager, d'encourager vos âmes et de vous fortifier à travers ce cantique. Qu'à la fin de cette prédication, voilà, on n'a rien appris de nouveau, mais on est encouragé à adorer encore plus notre Seigneur Jésus-Christ, à vouloir encore passer plus de temps avec lui. Donc nous allons voir l'histoire de Dieu, l'histoire de ce salut, ce roi glorieux qui a fait le choix de venir parmi sa création. Qui est ce serviteur au verset 13 ? Voici mon serviteur prospérera, il montera et s'élèvera bien haut. Dans le livre d'Ésaïe, si vous avez déjà lu le livre d'Ésaïe, qui est un peu long et un peu complexe, je peux le comprendre. Des fois, le mot serviteur, dans notre passage d'Ésaïe, peut être le peuple d'Israël. Quand vous allez lire Ésaïe, vous verrez le mot serviteur qui revient, et des fois, ça peut vraiment correspondre à la nation. D'autres fois, c'est Ésaïe lui-même le serviteur. Dans notre contexte ici, et je pense que vous l'avez bien compris, on va essayer de démontrer ça au fur et à mesure qu'on va avancer, il est question de Jésus, il est question du Messie. Dans le premier verset de ce cantique, on commence avec ce petit mot que vous voyez tous, voici. Et c'est un petit mot qui est très courant dans la langue hébraïque. C'est un mot qui revient plus de 1000 fois en hébreu. Mais quand ce petit mot est là, il faut être vigilant. En français, ça ne se voit pas, bien sûr. Mais c'est pour attirer notre attention, parce que ça peut être traduit par regardez, considérez, il y a cette idée de, il faut s'arrêter. Il y a quelque chose d'important quand il est mentionné ce petit mot-là. Et ici, Ésaïe, en commençant ce quatrième chant, ce quatrième cantique, est en train de dire, arrêtez-vous, regardez, soyez attentifs à ce qui va être annoncé. Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Eh bien, il faut considérer la gloire future du Messie. Il montera, il s'élèvera bien haut, nous dit le début de ce cantique. C'est incroyable. On commence ce quatrième cantique avec l'espérance éternelle, avec ce qui va arriver. Et ensuite, on va voir tout ce qui s'est passé entre-temps. Et vous allez voir, on va finir avec le verset 12, quand je reviendrai la prochaine fois, où on finit encore dans l'éternité. Ce cantique commence dans l'éternité et finit dans l'éternité. Pourquoi ? Parce que Christ intercède pour les coupables. Il est où quand il intercède, Christ, pour les coupables ? Il est dans les cieux. Christ intercède pour nous. Et heureusement, sinon on ne serait pas là, les amis. On commence le cantique dans l'éternité, avec un futur, et on finit dans l'éternité avec un passé, avec une action déjà accomplie. L'incarnation ici est aussi, bien sûr, mise en avant. Il montera, il s'élèvera bien, bien haut. Christ va rentrer dans l'espace-temps. Il va quitter cette gloire de manière temporelle. Il va venir s'humilier volontairement afin de pouvoir mettre en pratique cette idée de remonter, de s'élever et de s'élever bien. Pour que cela ait lieu, il faut que Christ soit descendu. Et donc ce passage est en train de parler indirectement déjà de l'incarnation que nous allons ensuite pouvoir développer au verset 14 et 15 par la suite. L'incarnation signifie que Dieu a décidé de quitter sa gloire en la personne du Fils. Dieu a fait le choix de venir sur cette terre. Parce que des fois les gens disent, mais attends, Dieu c'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un peu brouillon pour moi tout ça. Et c'est complexe à comprendre la Trinité, ça nous dépasse. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui a pu créer ça, cette doctrine-là. L'être humain n'a pas le cerveau assez développé pour créer ça. Mais Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient là, ont fait le choix entre eux dans leur échange de dire, c'est le Fils qui va quitter la gloire et qui va venir sur la terre. Et c'est lui ici qu'il est question. Mon serviteur prospérera, c'est Jésus-Christ. Il montera, il s'élèvera bien haut, c'est Jésus-Christ parce qu'il est venu sur cette terre et du coup c'est pour ça qu'il pourra remonter, notamment ce que nous avons chanté par rapport à la résurrection. Quitter la gloire pour la souffrance afin d'accorder cette gloire perdue en Éden à sa création. Voilà un des buts de pourquoi Jésus-Christ est aussi venu. C'est pour redonner cette gloire perdue en Éden à sa création. Et toute la motivation derrière est l'amour. L'amour de Dieu qui me dépasse. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer, me dépasse verset après verset, cet amour de Dieu à notre égard. Le verset 14, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. » Donc on quitte ce temps futur pour maintenant passer à un temps passé. Esaïe, je ne sais pas comment il a pu rédiger tout ça, c'est un peu perturbant la façon comme il utilise les temps. Mais là maintenant on passe à quelque chose qui est déjà accompli. Est-ce que quand Esaïe écrit, Jésus est déjà venu? Est-ce que Jésus a déjà été défiguré? Est-ce que Jésus a déjà fait tout cela quand Esaïe écrit? Absolument pas. Mais c'est pour vous montrer que ce plan, cette histoire de Dieu était déjà pensée de toute éternité. C'est pas Jésus ou Dieu à un moment donné qui a dit « Ah tiens, merde, les êtres humains sont en train de faire n'importe quoi, il faut qu'on trouve une solution. » Non, Dieu avait déjà déterminé, même avant la création du monde, que Jésus devrait venir sur terre et qu'il devrait souffrir. Et vous allez voir dans ce passage, dans tout Esaïe 52 et 53, cette tension entre la gloire et la souffrance. Pour nous, on dit ça ne peut pas aller ensemble. Mais pour Dieu, oui. Pour Dieu, oui. Et la souffrance était nécessaire. Si vous voulez comprendre, avoir une bonne théologie de la souffrance, hein, aujourd'hui, on pense que si tu souffres, c'est que tu as péché ou que tu as fait des choses qui n'allaient pas bien. Et ça ne va pas avec ce Dieu si bon, si merveilleux. Ah, arrêtez avec votre souffrance. Et la théologie de la souffrance, pour être bien comprise, pour moi, se trouve vraiment dans ce passage-là aussi. Bien sûr, il y a d'autres versets. Mais Esaïe 52 et 53, ce chapitre-là, ce recueil-là, nous parle du pourquoi de la souffrance. Et pourquoi la souffrance aussi, nous la vivons aussi aujourd'hui en tant que croyants. Qui d'autre que Dieu aurait pu parfaitement décrire en détail son plan de rédemption? Qui aurait pu prévoir que lui-même allait descendre sur cette terre et allait annoncer toute cette souffrance? Mes amis, quand vous lisez le verset 14, les contemporains de Jésus ont vu cela, ont vu un visage qui était défiguré. On ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas d'indice sur le fait que le visage de Jésus était défiguré. C'est Esaïe qui annonce ça. Et quand il dit son aspect différé de celui des fils de l'homme, ce n'est pas qu'il est en train de parler ici de son aspect qui est en train de briller ou tout ça. C'est en train de montrer que son visage, je ne sais pas si le mot déchiqueté était juste, peut-être un peu simple, mais il y a une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Une violence terrible. Quand je préparais ce message, je pensais à Marie qui était là devant la croix, qui vient de voir son fils, qui a porté cette croix pendant plusieurs mètres, voire peut-être kilomètres. Il venait juste d'être sorti avec des coups de flagellation des Romains qui avaient des sortes de martinets mais qui étaient violents avec des clous dessus. Et Jésus en a pris, il en a pris. Il est là, elle le regarde et elle le voit défiguré. Quelques disciples sont là aussi. Eux, les lâches qui sont partis, qui l'ont abandonné à Gethsémané, sont en train de voir leur Seigneur défiguré. N'oubliez jamais que le salut a eu un coût. On parle souvent dans nos milieux évangéliques, le salut c'est gratuit. Ouais, pour toi, mais pas pour lui. Ça a eu un coût terrible. Un coût terrible. La haine du cœur humain face au sauveur de l'humanité. J'ai jamais vu une personne qui était défigurée. Jamais. Ça va être terrible. Verset 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Alors, je fais juste une petite parenthèse technique là, parce que je pense qu'on n'a peut-être pas toutes les mêmes traductions. Certains ont peut-être, il a aspergé beaucoup de nations. Je ne sais pas si vous avez cette traduction, mais c'est peut-être la meilleure traduction, en fin de compte, même si je comprends celle, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Mais littéralement, c'est il a aspergé beaucoup de nations, et c'est un vocabulaire qu'on retrouve dans Lévitique, qui va très bien dans notre contexte, en fin de compte. C'est une peine subie à cause d'un péché pour se faire pardonner. Il fallait prendre du sang d'un taureau, hein, il y avait tout un rituel d'aspersion, et Christ, lui, a versé son sang pour les nations, dont je fais partie, mais bien sûr aussi pour la nation d'Israël. Mais ici, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Je pense qu'il est plus judicieux de le traduire. Il a aspergé beaucoup de nations, et on comprend qu'on est dans la notion de sacrifice, et ça va très bien avec la suite du verset 14. Donc, incarnation, souffrance. Et puis devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'ils n'avaient point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Je ne vais pas m'attarder sur la deuxième partie de ce verset, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose d'eschatologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui parle de la fin des temps. Et je pense ici qu'il est question du retour de Christ. Donc, dans ces trois versets-là, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Vous avez la conception dans l'éternité du projet de la rédemption. Vous avez l'incarnation, vous avez la souffrance, vous avez la glorification et vous avez le retour en gloire de Christ. En trois versets, le plan de Dieu, l'histoire de Dieu, je ne parle même pas de l'histoire de l'humanité, je parle de l'histoire de Dieu, est déjà révélée en trois versets. Ce sont juste extraordinaires. On pourrait prendre encore plus de temps pour tout développer, mais on n'a pas le temps bien sûr ce matin. Mais vous donnez goût à relire ce livre d'Ésaïe et ce chapitre-là. 2700 ans plus tard, mes amis, une grande partie de cette prophétie s'est réalisée. Et vous avez devant vos yeux, devant mes yeux, le salut conçu par Dieu. Et puis nous voilà souvent arrivons à ce chapitre 53. Et pour ça, je vous encourage, si un jour vous enseignez ou que vous réutilisez Ésaïe 53, commencez toujours avec la fin du chapitre 52. Sinon, vous allez louper le pourquoi on arrive avec cette question au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu l'histoire de Dieu? Qui a reconnu le plan de la rédemption qui vient d'être annoncé trois versets avant? Qui a reconnu ça? Qui a reconnu que le Messie va prospérer? Qui a reconnu que le Messie allait venir souffrir, être flagellé, être crucifié, être défiguré? Qui a cru que le Messie allait revenir? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans notre contexte immédiat, je suis bien conscient qu'on est en train de s'adresser à Israël, que le prophète est en train de s'adresser à Israël ici. Est-ce qu'Israël a déjà vu la main de Dieu agir? Est-ce que l'Israël a déjà vu le bras de l'Éternel agir au moment où Isaïe parle? Bien sûr que oui. Pour moi, une des scènes les plus extraordinaires de la Bible, peut-être un des miracles de l'Ancien Testament les plus extraordinaires, ça reste quand même à traverser la mer Rouge. Hein? Il y en a peut-être eu d'autres, mais celui-là, pour moi, il est assez incroyable avec la conversion de Ninive avec Jonas. Celui-là aussi, ça reste quand même un miracle extraordinaire pour moi. Mais celui-là, à traverser la mer Rouge, on a vu le bras de l'Éternel intervenir avec puissance. Donc Israël a déjà vu la main de Dieu agir. Mais Jésus a expliqué une histoire à ses contemporains pour leur montrer qu'ils vont rejeter le bras de l'Éternel. Vous la connaissez cette histoire, alors Matthieu 21, je vais vous lire juste un tout petit passage, le verset 37. Il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Si vous lisez la suite de l'histoire, les pharisiens vont comprendre un peu ce qu'il est en train de dire. Ils ne vont pas être très contents. Qui a cru à ce qu'il nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Les contemporains de Jésus n'ont pas reconnu ça. Est-ce qu'aujourd'hui cela a changé pour les nations? Non. Pour beaucoup d'entre nous sommes confrontés jour après jour dans notre vie professionnelle, dans notre vie de famille, dans notre voisinage, dans notre vie sportive, à des gens qui ne veulent pas du Messie, qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Vous pouvez leur parler de l'histoire de Dieu. Vous pouvez arriver avec une histoire très structurée de comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a pensé à vouloir sauver l'être humain. Et quand vous leur présentez le Messie, vous pouvez poser cette question, mais qui de mon entourage a cru ce qui est annoncé? Qui est en train de reconnaître le bras de l'Éternel autour de moi? Qui est en train de faire ça? Et la réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a une telle incrédulité lorsque le message du salut est prêché. Et j'irai encore même plus loin, voire même de la haine. Nous sommes un pays privilégié, mes amis. Beaucoup de pays dans le monde, quand vous prêchez l'évangile, ce n'est pas juste qui a reconnu. C'est, en plus de ne pas reconnaître, c'est de la haine. C'est de la haine. C'est ce que Jésus a vécu. Alors pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'incrédulité? On fait juste un petit saut sur notre verset 6. Que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais un petit saut sur notre verset 6 du chapitre 53. Voilà pourquoi. Pourquoi l'être humain n'a pas cru au bras de l'Éternel? Pourquoi on refuse le Messie encore aujourd'hui? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Voilà la raison de pourquoi. Le cœur de l'homme fait ce qu'il veut. L'homme ne veut pas de Dieu dans sa vie, ne veut pas de Messie dans sa vie. Nous ne voulons pas que Dieu intervienne dans notre vie. Le cœur de la rébellion et de l'incrédulité. Chacun veut suivre sa propre voie. Vous savez, quand vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez les miracles de Jésus. Même dans Luc, hein, on peut voir ça aussi, mais on voit les miracles de Jésus. On voit des choses extraordinaires que Jésus fait. Et à un moment donné, quand vous arrivez au chapitre 12 de Jean, il y a un petit tournant. Il y a cette histoire qui arrive, hein, après la résurrection de Lazare. Les responsables de la nation d'Israël voient ça, ils sont prêts à croire presque au message de Jésus. Mais le texte nous dit ça concernant les responsables. Ceux qui avaient la connaissance d'Ésaïe 53. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, 42. Ils sont prêts à faire le pas, à dire « Ah, mais ça, c'est le Messie, c'est celui qu'on a dû sûrement lire dans notre passage du prophète Ésaïe. Il est là !» Mais le texte dit ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Même les chefs religieux qui avaient la connaissance des Écritures n'ont pas cru. Ils ont préféré la gloire de l'homme, des hommes. Ils ont préféré leur religion. Ils ont préféré l'homme plutôt que Dieu. Quelle folie! Alors qu'ils avaient le Dieu Tout-Puissant face à eux. Rien au monde ne semble plus naturel que de fabriquer son propre Dieu et de suivre sa propre voie et son propre chemin. Et vous savez quoi? Ça ne ressemble pas à une rébellion, ça. Ça paraît normal. Parle avec les gens. Ce côté humaniste de vivre pour l'homme et que pour l'homme. Hein? Il n'y a rien de rebelle. Par contre, imaginez votre enfant de 5-6 ans qui se met à vous dire « Tu sais quoi? Dans cette maison, je fais ce que je veux. » J'en ai 7. Moi, si les 7 me disent ça, ma maison, elle prend feu en moins de 5 minutes, hein. Vraiment. Ça, c'est de la rébellion. On va dire ça. Un enfant qui dit à un parent, je fais ce que je veux, on appelle ça de la rébellion. Un être humain qui dit à Dieu, je fais ce que je veux, on appelle ça quelque chose de normal. C'est faux. Ça s'appelle de la rébellion contre son créateur. Mais on ne veut pas utiliser ce mot-là. Et c'est pour ça que personne a cru et reconnaît pas le bras de l'Éternel, parce que l'être humain peut faire ce qu'il veut, ce qui lui semble bon, mais tout ce qui lui semble bon est mauvais. Le cœur de l'être humain est naturellement rebelle. Il conteste au lieu de se soumettre à ce que Dieu dit. Quand tu veux ressembler au diable, tu as juste à rentrer dans l'insoumission, la rébellion, la dépendance et tout le reste. Alors que Dieu veut de la soumission et de la dépendance à lui. Mais c'est dur ça. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu a envoyé son serviteur pour sauver les êtres rebelles. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé quand il l'a envoyé? Il a dit, je vois cette rébellion. Ils ne veulent pas croire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Voilà ce que a fait l'être humain. Il a dédaigné, il n'a fait de lui aucun cas. Mais avant d'arriver sur ce verset 3, reprenons notre verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il, c'est qui à votre avis? Il est question de qui ici? Vous pouvez répondre. Il. Il va falloir déterminer qui est il et qui est lui. Il, c'est qui à votre avis dans le passage?
Le Messie.
Le Messie, c'est Jésus. Donc Jésus s'est levé devant lui. C'est qui lui?
Dieu
le Père. Donc le Fils s'est levé devant le Père comme une faible plante. Donc ici on peut voir un peu l'idée de la nativité puis ensuite de la croissance de Jésus. Hein, Jésus est né dans un lieu et une situation humble. Rien de spectaculaire, c'est ce que le texte est en train de vouloir nous montrer ici. Rien pour attirer les regards. Il a grandi dans la simplicité, il n'avait aucun habit de roi. L'homme est attiré parce qu'il frappe les yeux. Mais le choix de Dieu ne dépend pas de l'apparence humaine. Les gens aiment dire qu'ils ont comme amis ou connaissances des riches ou qu'ils connaissent un tel. Mais rarement les gens, j'ai rencontré rarement les gens qui disent, tu sais, moi mon ami c'est le sans-abri du coin en bas. Hein? Qui a reconnu dans cette humilité le bras puissant de l'Éternel en Jésus-Christ? Qui a reconnu le Messie? Je vais l'expliquer plusieurs fois, au fur et à mesure que je vais avancer, la théologie juive du premier siècle et contemporain de Jésus était fausse. Était fausse parce qu'ils attendaient bien le Messie. Je ne peux pas leur enlever ça, ils attendaient le Messie. Ils n'avaient pas associé que le Messie devrait souffrir et devait venir avec humilité. Ils avaient une conception, une théologie uniquement d'un Messie conquérant et d'un roi puissant pour se débarrasser, honnêtement, des Romains. C'était ça, leur théologie. Ils avaient exclu que le Messie devait venir premièrement avec humilité et subir des choses terribles et passer par la souffrance. Ce contraste du bras de l'Éternel avec la description de la vie de Jésus que nous lisons dans le verset 2, puissance et humilité, gloire et souffrance. Et c'est difficile à saisir cela. Hein, comment se fait-il que Jésus, qu'on veut dire qu'il est le Messie et qu'il vient de Nazareth, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Rien de bon vient de Nazareth. Hein? Vous savez, la première fois où Jésus va vouloir être mis à mort, vous savez c'est où? Lors de sa première prédication? À Nazareth, en Luc 4. En Luc 4, il commence à prêcher Jésus. Il prêche, il annonce Ésaïe. Vous pouvez regarder, il ouvre le rouleau d'Ésaïe, il prêche Ésaïe. Et puis il commence à parler de deux histoires de païens. Là, ça commence à bouger dans la tête. Il parle de Naaman et de la veuve de Sérapta. Et à ce moment-là, le texte nous dit qu'ils le prennent, ils veulent le tuer, ils veulent le jeter à Nazareth. À Nazareth. Méprisé et abandonné des hommes, nous n'avons fait de lui aucun cas. La nation d'Israël a détourné son regard de ce qui lui était annoncé. À leurs yeux, rien en lui n'avait de valeur. Pourquoi? Sa position sociale? Rien. son éducation, Nazareth. Ses origines familiales, Nazareth. Rien de bon dans Nazareth. Ils attendaient un libérateur, un roi conquérant, comme je vous le dis, pas un serviteur souffrant. Ils attendaient un leader politique et militaire, pas quelqu'un pour les délivrer du péché, mais pour les délivrer d'une oppression terrestre. Alors que Jésus, mes amis, il est venu délivrer de la culpabilité et de la condamnation du péché. Vous pouvez être libéré de tant de choses, mais si votre nature pécheresse n'a pas été pardonnée et justifiée, vous pouvez avoir été libéré et guéri de tout ce que vous voulez, vous restez un être condamné. Combien j'entends d'histoires où les gens veulent des miracles, être guéris de tout cela. Ils veulent être guéris des choses physiques et matérielles. Et je ne dis pas que c'est pas bon et que Dieu ne peut pas le faire. Amen, il peut le faire. Mais la chose la plus importante, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Jésus a été méprisé par son propre peuple et abandonné par ses disciples. C'est ce que le verset 3 nous dit. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. Les contemporains de Jésus ont reflété toute la haine du cœur humain contre Dieu. Et cela n'a malheureusement pas changé aujourd'hui. Nous aurions sûrement, nous aussi, crié, vous savez quoi ? Hosanna, Hosanna ! Non, on aurait sûrement crié. Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Vous voyez la théologie erronée du temps du premier siècle, c'est que ils voient Jésus arriver sur cette... je porte trop le micro. Ça, il faut bien que je reste là, sinon ils vont plus m'entendre. Ils voient Jésus arriver sur cette annonce. Ils disent, le roi, il arrive, il rentre à Jérusalem enfin, parce que Jésus venait faire tout son ministère en Galilée, il descend, il arrive à Jérusalem. Ouais, notre roi, il arrive. Pilate, il va se dégager rapidement, parce que le roi, le Messie, il arrive. Mais ce Messie va se retrouver au Sanhédrin, jugé, condamné et crucifié. Et quand ils voyaient que ce Messie ne vient pas, comme eux, ils avaient pensé dans leur théologie, détruire l'armée romaine en un souffle, ils vont changer leur discours. On va passer du Hosanna, Hosanna, au crucifie-le, crucifie-le. Quand votre théologie n'est pas bonne, il vous faut très peu de temps pour changer votre discours. D'où l'importance d'avoir une bonne théologie dans l'Écriture. Aussi et surtout d'avoir un cœur régénéré et transformé. Mais tout cela, même cet abandon, même ce fait que personne n'a fait aucun cas de lui, tout cela fait partie de l'histoire de Dieu. Et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu ne s'arrête pas là. Dieu aurait pu dire, j'envoie mon propre fils, je descends sur cette terre, il me crucifie, il me déteste, ils ont la haine contre moi, très peu vont croire en moi. On aurait pu arrêter l'histoire là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que Dieu avait une volonté très arrêtée et très précise. Il voulait se réconcilier avec sa création rebelle, dont je fais partie et nous faisons partie. Hein? Est-ce que toute sa création voudra de cette réconciliation ? La réponse est non. Mais la réconciliation est possible parce que c'est l'initiative vient de Dieu. Si l'initiative venait de nous, ça passerait pas. La réconciliation est possible parce qu'elle vient de Dieu. Vous savez, il faut aussi comprendre la grandeur et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, dans ces passages, nous montre que Dieu n'a pas besoin de se réconcilier pour se sentir aimé. Dieu veut cette réconciliation tout simplement parce qu'il est suffisant à lui-même et il veut démontrer, même, je dirais, pas à lui-même, il veut démontrer même à son ennemi combien son amour est grand. Mais Dieu lui-même n'a pas besoin de se sentir aimé. Il est pleinement, il se satisfait à lui-même de son amour. Toutes les perfections de Dieu sont complètes. Et ce choix de quitter sa gloire pour venir vers des êtres aussi tordus que nous et nous dire je t'aime, c'est ça, nous dire je t'aime. Je sais, je connais le cœur de chacun d'entre vous. Je connais la profondeur des ténèbres qu'il y a dans votre cœur. Mais je vous aime. Et il fallait que quelqu'un paye à la croix pour ça. Vous savez quoi ? Tout ça, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais Dieu a dit quelque chose dans Romains 5, il dit, j'ai prouvé mon amour envers toi, Florent, alors que tu étais encore quoi ? Mon ennemi. Un pécheur, mais surtout mon ennemi. Dieu t'a aimé, Dieu vous a aimé à chacun d'entre vous ici, alors que vous étiez encore ses ennemis. Et si vous n'êtes pas né de nouveau dans cette salle ou dans l'autre salle, et que vous êtes son ennemi encore aujourd'hui, parce qu'on est soit ami, soit ennemi de Dieu, il n'y a pas deux solutions possibles. Dieu, il prouve son amour pour toi. C'est incroyable. Tant qu'il t'accorde ce souffle de vie, tu peux encore te tourner vers lui parce qu'il t'aime. Et ce souffle de vie, on ne sait pas jusqu'à quand on peut l'avoir. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers Christ. Mais regardez ce que Christ a fait. Il le dit pour la suite. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Dans ces versets 4 et 6, en étudiant, j'ai mis des petits coups de couleur, et il y a deux choses qui ressortent. Le pronom possessif, nos, et le pronom personnel, nous. Nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités, nous donnent la paix, nous sommes guéris. Et la deuxième chose, c'est le langage de substitution ou de remplacement. Ce que Jésus a fait, il l'a porté, il s'est chargé, il était blessé, est tombé sur lui par ses meurtrissures. La croix, mes amis, est le lieu le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. La croix est le lieu où réside l'humilité et la puissance de Dieu. J'explique souvent dans mes prédications, ou des fois à mes enfants ou autres, que l'œuvre de la croix démontre la justice et l'amour de Dieu. Des fois, nos cœurs à nous, en tant que chrétiens, nous sommes un peu trop l'amour de Dieu et la justice de Dieu, on met de côté. Et puis il y en a d'autres, c'est la justice de Dieu, et puis il n'y a pas trop d'amour de Dieu. Et on est très déséquilibré des fois dans notre théologie ou dans notre façon de vivre même. Mais la croix, c'est l'équilibre entre l'amour et la justice. Il ne peut pas avoir de justice sans amour, il ne peut pas avoir d'amour sans justice. Les deux étaient nécessaires. Jésus a démontré son amour à la croix, et en même temps, il a accompli la justice parfaite pour pouvoir nous donner son amour et sa justice. C'est ça la beauté de la croix. Seul Christ pouvait rétablir cela. Alors la question, c'est pourquoi ? La colère de Dieu contre l'humanité à cause de sa rébellion devait être apaisée. La colère de Dieu devait être apaisée. Sache une chose, c'est que tu es né, et je sais que ce n'est pas agréable à entendre ce que je veux dire, mais lorsque nous sommes nés, la colère de Dieu était sur nous. Mais moi, je suis un pauvre bébé, je n'ai jamais rien fait. Tu es né avec le péché, je suis né avec le péché. Et la colère de Dieu demeure sur l'être humain quand il naît. Et il y avait un seul moyen pour que la colère de Dieu soit apaisée. Et aujourd'hui, la colère de Dieu a été apaisée. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que Dieu lui-même apaise sa propre colère. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il demandait que la colère de Dieu soit apaisée ? Il fallait un sacrifice parfait. Quelqu'un qui se sacrifie, qui n'ait jamais commis de péché. Mais quel être humain peut faire ça ? Personne. Donc on était vraiment dans la galère. Vraiment dans la galère. Et c'est pour ça que Dieu, de toute éternité, a dit, moi je vais décider de descendre dans la personne de Jésus-Christ sur cette terre, parce que je suis le seul capable de pouvoir apaiser ma propre colère. Et tout ça par amour. Il n'était pas obligé. Jamais ne croyait ça. Il n'était pas obligé. Il a fait par amour. Pour nous. Un Dieu qui ferme les yeux sur les injustices, personne ne veut adorer ce genre de Dieu. La première injustice, c'est notre refus de nous soumettre à celui qui nous donne le souffle de vie. J'avais noté Dieu dans son plan et sa vision de l'histoire a toujours voulu un sacrifice pur, authentique, pour apaiser sa propre colère, pour vivre une restauration avec sa création. Dieu est conscient qu'aucun être humain est prêt à mourir et souffrir pour toutes les personnes de l'histoire de l'humanité. Vous savez, à peine on m'insulte, à peine on me critique, je réagis de suite. On peut faire l'expérience. Je viens vous voir à la fin du culte et je vous critique de suite. Vous allez voir, vous me connaissez déjà un pas, il va dire, se prend pour qui celui-là ? Et vous n'allez pas supporter ça. Et vous allez avoir, si je vous mets une grande claque, comme ça, gratuitement, et qu'après on te demande va mourir à la croix pour ce gars qui vient te mettre cette grande claque dans ta tête, qui va vouloir faire ça? Là je parle juste d'une claque. Je vais être un peu plus dur. Imaginez quelqu'un qui rentre dans votre maison, je suis papa de cet enfant, et que je vois quelqu'un qui tue mes enfants devant moi, qui abuse de mes enfants devant moi et qui les tue devant moi. Et qu'on me dit, Florent, il faut que tu ailles à la croix pour mourir pour cet homme-là, pour qu'il soit pardonné, pour qu'il aille auprès de Dieu. Mon cœur va faire quoi? C'est que je vais surtout chercher peut-être un pistolet pour me venger. Ça, c'est le cœur de l'homme. Tous vos péchés, toutes vos pensées, qui sont déjà. Le poids du péché est déjà grand dans une salle de culte. Mais maintenant, à l'image de l'histoire du monde. Le poids du péché est incroyable. Et Jésus-Christ, à la croix, a porté tout le poids du péché pour que nous soyons pardonnés, pour que la colère de Dieu soit apaisée. Vous savez pourquoi Jésus peut vous comprendre à chacun de vous dans cette salle, quelles que soient les choses que vous avez vécues ou que vous traversez? C'est parce qu'à la croix, il a tout porté. Il a tout porté les souffrances. Alors un jour dans mon ministère, il y a une dame qui me dit « Mais Florent, Jésus n'a jamais eu de cancer. Mais Florent, Jésus, il n'a jamais perdu un enfant. » J'ai entendu ça dans mon ministère pastoral. Et j'ai d'autres histoires qui sont terribles. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans sa vie terrestre, il n'a pas vécu ça. Par contre, quand il était à la croix, la Bible dit qu'il a porté toutes les souffrances. Donc toutes ces souffrances de gens qui ont perdu quelqu'un, un être cher, qui ont vécu des choses terribles dans leur vie, Jésus l'a porté à la croix. Et c'est pour ça qu'il peut vous comprendre dans chacune de vos douleurs et dans chacune de vos souffrances. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Jésus-Christ pouvait supporter et porter le poids de la haine humaine dans le but d'apaiser sa propre colère. C'est ça le grand message de la bonne nouvelle. Au lieu d'augmenter nos peines, il porte nos peines. Au lieu de se venger de nos transgressions, il est percé et cloué pour elle à notre place. Au lieu de nous écraser pour nos iniquités, il est écrasé pour elle comme notre rançon. Tout le châtiment et le fouet que nous méritions pour notre rébellion, il a pris sur lui afin que nous puissions être réconciliés et être guéris. Notre âme était en phase terminale, mais il a guéri notre âme pour nous offrir l'éternité. Combien mon âme est en paix aujourd'hui et dans la joie. John Piper a dit ceci. Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les subtilités de la façon dont cela fonctionne pour être guéri et pardonné par rapport à notre passage d'Ésaïe. Pas plus que vous devez comprendre comment fonctionne un ordinateur pour écrire des poèmes sur votre traitement de texte. Dieu nous dit ce que nous devons savoir. Son serviteur rejeté est un fait, un substitut, donc un remplacement, une rançon pour les sujets rebelles. C'est ça, l'Évangile. Vous avez sûrement déjà entendu tout ce que je viens de vous dire depuis plus de 30 minutes. Mais nous sommes des auditeurs oublieux. Je suis un auditeur oublieux. Et cela peut devenir même une routine. Mais cela ne l'est pas. C'est le miracle. C'est le miracle de Dieu. Que Christ a été blessé, brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne rejette plus ce serviteur. Mais je le vois comme celui qui a payé le prix fort à la croix pour moi. Je sais que si je quitte ce monde aujourd'hui, je suis dans sa présence pour l'éternité. J'espère que c'est votre assurance à chacun, votre espérance à chacun. Hein, on l'a chanté, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. La parole de Dieu a pour but de transformer le plus profond de notre être, afin que nos vies glorifient Dieu. La parole de Dieu n'apporte pas de nouveauté, mais nous rappelle sans cesse l'histoire de Dieu. Vous connaissez ce cantique? Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. Qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Vous connaissez ce cantique? Redites-moi l'histoire. À part se mettre à genoux et se prosterner devant notre Dieu si grand, quand nous lisons ce passage, je ne vois pas d'autre chose à faire. Combien nous devrions peut-être lire plus souvent ce cantique d'Ésaïe? Et nous rappeler constamment l'œuvre de la croix. Alors certains me diront, mais ok Florence, c'est sympa, mais ça ne change pas mon quotidien tout cela. Demain, je repars au boulot avec mes collègues qui vont être pénibles. J'ai ma vie de famille qui est fatigante, épuisante. J'ai mes épreuves de ma vie, j'ai des luttes avec mes péchés de tous les jours. À quoi change, qu'est-ce que change ma vie ce passage que tu viens de nous annoncer? Moi, je crois qu'il change beaucoup de choses. La première chose qui change, c'est mon regard. Au lieu d'avoir mon regard tourné vers moi, j'ai mon regard tourné vers le roi des rois. Quand votre regard est tourné dans la bonne direction, beaucoup de choses changent. Je crois que le roi des rois est vivant. Je crois que le roi des rois transforme nos vies jour après jour. Je crois que le roi des rois a dit, j'ai commencé quelque chose en toi et je veux l'accomplir à la perfection. Et je crois que l'œuvre de la croix, l'œuvre que nous venons de lire dans Ésaïe 53, a un but de transformation en nous. Je crois que ce que nous venons de lire va pousser nos cœurs par la puissance de l'esprit à vouloir replonger nos regards dans la parole pour aller encore plus loin et comprendre qui il est. Qui vous aime plus que lui? Je finis avec ça. Qui vous aime plus que lui? Personne. Et ne croyez jamais que quelqu'un pourra vous aimer plus que Jésus-Christ. C'est un mensonge. Pour la simple et bonne raison, j'ai noté, c'est que son œuvre est unique dans l'histoire de l'humanité. Il est Dieu. Il est Dieu. Christ est l'exemple d'une vie de souffrance dans la joie et la gloire. Il vous transmet ça. Il vous a transmis ça. C'est pas qu'il peut, il vous l'a transmis. Si vous êtes son enfant.